Chapitre 9. Au cœur de la place.
Une nuit suffit à réparer tous les désastres, prétendait Victor. Lorsque son ami Larmona vint le voir le lendemain soir, il n'avait pas repris une figure plus souriante qu'à l'ordinaire, mais il était apaisé et confiant.
Partie remise. Mon ouvrage était si solide que l'apparence seule en fut dérangée.
Et veux-tu que je te dise mon opinion ?
Je la connais. Tu en as assez.
Eh bien oui. Trop de complications. Des trucs qui ne se font pas quand on a l'honneur d'être policier. Il y a des fois où l'on croirait que tu es de l'autre côté de la barricade.
Quand on veut arriver, on ne choisit pas son chemin.
Et peut-être, mais moi...
Toi, tu es dégoûté. Autant rompre, alors.
Eh bien, mon vieux, puisque tu me le proposes, j'accepte. Rompre, non, je te dois trop de reconnaissance. Mais interrompre.
Tu as de l'esprit aujourd'hui. Bon, en tout cas, je ne puis t'en vouloir de tes scrupules. J'en serai quitte pour choisir à la police judiciaire un autre collaborateur.
Et qui ?
Je ne sais pas. Le directeur, peut-être.
Hein ? Monsieur Gauthier ?
Peut-être, mais sait-on jamais. Qu'est-ce qu'on y dit à la police ?
Et ce que tu as lu dans les journaux ? Mauléon exulte. Somme toute, s'il n'a pas eu Lupin, il a eu l'Anglais. Et avec les trois Russes, le tableau est respectable.
L'Anglais n'a pas parlé ?
Et pas plus que les Russes. Au fond, tous ces gens-là espèrent que Lupin les sauvera.
Et Félix Deval, l'ami de Gustave Jérôme.
Et Moléon se démène à son sujet. Aujourd'hui, il est à Saint-Cloud et à Garches. On cherche des renseignements. Et la piste leur paraît sérieuse, et le public marche. La participation de Félix Deval expliquerait bien des choses. Bref, on s'emballe.
Un dernier mot, mon vieux. Téléphone-moi dès que tu auras des nouvelles sur le Deval, principalement sur ses moyens d'existence et sur l'état de ses affaires. Tout est là.
Victor ne bougea plus de chez lui. Il aimait ces périodes, ces pauses dans l'action, durant lesquelles on envisage toute une aventure. On étale devant soi tous les épisodes et l'on confronte les faits avec l'idée qu'on s'en est formé peu à peu. Le jeudi soir, communication de Larmona. La situation financière de Félix Deval était mauvaise. Des dettes, du bluff. Il ne se soutenait que par des coups de bourse et des spéculations désespérées. Ses créanciers le disaient aux abois.
Il est convoqué ?
Par le juge d'instruction, pour demain matin, à 11h.
Pas d'autres convocations ?
Oui, la baronne d'Autré et Madame Jérôme. On veut tirer certains points au clair. Le directeur et Moléon assisteront.
Moi aussi.
Et toi aussi ?
Oui. Préviens, Monsieur Gauthier.
Le lendemain matin, Victor passa d'abord au Cambridge et se fit conduire dans la chambre qu'avait occupée Félix Deval et que l'on tenait close. Ensuite, il se rendit à la préfecture où Monsieur Gauthier l'attendait. Ils entrèrent ensemble chez le juge d'instruction avec le commissaire Moléon. Au bout d'une minute, Victor manifesta son ennui par des bâillements et par une attitude si peu convenable que M. Gauthier, qui le connaissait bien, lui dit avec impatience
« Mais enfin quoi, Victor ? Puisque vous avez à parler, faites-le »
« J'ai à parler. » Mais je demande que ce soit en présence de Madame d'Autré et de Gustave Jérôme.
On l'observa avec étonnement.
On savait le personnage bizarre,
mais sérieux et fort avare de son temps et du temps des autres. Il n'aurait pas sollicité cette confrontation sans raison péremptoire. La baronne fut introduite d'abord, enveloppée dans son voile de deuil, puis... Un moment après, on amena Gustave Jérôme, toujours souriant et allègre. Moléon ne dissimulait pas sa désapprobation.
Eh bien, allez-y, Victor. Vous avez sans doute des révélations importantes.
Des révélations? Non. Mais je voudrais éliminer certains obstacles qui nous gênent et rectifier des erreurs et des idées fausses qui encombrent la route. Dans toute affaire, il y a un instant où le point doit être fait si on veut repartir de plus belle. Je l'ai déjà fait une fois en nous débarrassant de tout ce qui était la première phase de l'action et qui tournait autour des bons de la défense. Il faut maintenant, avant l'attaque définitive contre Lupin, nous débarrasser de tout ce qui représente le crime de la bicoque. Reste en scène Madame Dautré, Monsieur et Madame Gustave Jérôme et Monsieur Félix Deval. Finissons-en. Ce sera bref. Quelques questions.
Il se tourna vers Gabriel Dautré.
Je vous supplie, madame, de bien vouloir répondre en toute franchise. Considérez-vous le suicide de votre mari comme un aveu?
Elle écarta son voile de crêpe. On vit ses joues pâlies, ses yeux rougis par les larmes, et elle prononça fermement
« Mon mari ne m'a pas quitté la nuit du crime. »
C'est votre affirmation et le crédit qu'on y attache qui empêche d'atteindre une vérité qu'il est indispensable de connaître.
Il n'y a pas d'autre vérité que celle que j'affirme. Il ne peut pas y en avoir d'autre.
Il y en a une autre.
Et s'adressant à Gustave Jérôme,
« Cette autre, vous la connaissez, Gustave Jérôme. D'un seul coup, comme je l'ai laissé entendre lors de notre dernière entrevue, vous pouvez dissiper les ténèbres. Voulez-vous parler ?»«
Je n'ai pas à refuser. Je ne sais rien. »«
Si, vous savez. »«
Rien du tout, je le jure. »«
Vous refusez ?»«
Je n'ai pas à refuser. Je ne sais rien. » »«
Alors je me décide. Je ne le fais qu'avec le regret de causer à Madame Dautré une blessure cruelle. » Affreusement cruelle, mais un jour ou l'autre, elle saurait. Autant couper dans le vif.
Gustave Jérôme eut un geste de protestation assez déconcertant chez un homme qui s'était dérobé à toute réponse.
Monsieur l'inspecteur, c'est bien grave ce que vous allez faire.
Pour savoir que c'est grave, il faut que vous sachiez d'avance ce que je vais dire. En ce cas, « Parlez. »
Victor attendit. L'autre se taisant, il commença, résolument.
Le soir du crime, Gustave Jérôme dîne à Paris, avec son ami Félix Deval. C'est une distraction que les deux amis s'offrent souvent, car ils sont tous les deux amateurs de bons repas et de bons vins. Mais à ce dîner-là, les libations furent plus abondantes. À tel point que lorsque Gustave Jérôme revient, sur le coup de 10h30, il n'a pas bien sa tête à lui. Au carrefour, il avale un dernier cumel, qui achève de le griser, et tant bien que mal, il repart dans son auto, suit la route de Garches. Où est-il? Devant sa maison? Il en est persuadé. En réalité, il n'est pas devant sa maison, c'est-à-dire devant sa villa actuelle, mais devant une maison qui lui appartient, où, durant 10 ans, il a habité, où il est rentré 100 fois le soir en revenant de Paris, après avoir fait de bons dîners. Une fois de plus, il a fait un bon dîner. Une fois de plus, il rentre chez lui. N'a-t-il pas sa clé en poche? Cette clé que réclame son locataire, Dautré, et pour laquelle ils ont comparu en justice de paix. Il l'a toujours dans sa poche, par entêtement, et pour qu'on ne la retrouve pas ailleurs. Alors, n'est-il pas naturel qu'il s'en serve? Il sonne. La concierge ouvre. Il murmure son nom en passant. Il monte, il prend sa clé, et il entre. Il entre chez lui. Parfaitement, chez lui, chez lui et pas ailleurs. Comment, avec ses yeux troublés, son cerveau vacillant, ne reconnaîtrait-il pas son appartement, son vestibule ? Gabrielle Dautré s'était levée. Elle était livide. Elle essaya de balbutier une protestation. Elle ne le put pas. Et Victor continua, posément, en détachant les phrases les unes des autres. Comment ne reconnaîtrait-il pas la porte de sa chambre ? C'est la même. C'est la même poignée qu'il tourne, le même battant qu'il pousse. La chambre est obscure. Celle qu'il croit, sa femme, est assoupie. Elle ouvre à demi les yeux, prononce quelques mots à voix basse. L'illusion commence pour elle aussi. Rien ne la dissipera. Rien. Victor s'interrompit. L'angoisse de Madame Dautré devenait effroyable. On devinait tout l'effort de sa pensée, l'éveil de certains souvenirs qui la frappaient et de certains détails qui lui revenaient. Bref, toute l'explication redoutable qui s'imposait à elle avec une logique terrible. Elle regarda Gustave Jérôme, eut un geste d'horreur, vira sur elle-même et tomba agenouillée devant un fauteuil, en se cachant la figure. Tout cela se produisit dans un grand silence. Aucune objection ne s'éleva contre l'étrange révélation faite par Victor et acceptée par la baronne. Gabrielle Dautré s'était recouvert la tête de son crêpe. Gustave Jérôme demeurait là, un peu gêné, à demi souriant, très comique. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Je ne me suis pas trompé. L'autre ne savait pas trop s'il devait avouer ou s'obstiner dans son rôle de galant homme qui se laisse emprisonner plutôt que de compromettre une femme. À la fin, il articula.
Oui, c'est ça. J'étais éméché. Je ne me suis pas rendu compte. C'est à 6 heures seulement, en me réveillant, que j'ai compris. Je suis sûr que Madame Dautré m'excusera.
Il n'en dit pas davantage. Une hilarité, sourde d'abord, puis irrésistible, se propageait de M. Validou à M. Gauthier, du secrétaire à Mauléon lui-même. Alors, la bouche de Gustave Jérôme s'élargit, et à son tour, il se mit à rire, sans bruit, amusé de cette aventure qui lui avait conservé sa bonne humeur en prison et dont la drôlerie lui apparaissait soudain. Il répéta d'un ton désolé en s'adressant à la forme noire à genoux.
« Il faut m'excuser. Ce n'est pas de ma faute. Le hasard, n'est-ce pas ? Depuis, j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'on ne se doute de rien. »
La baronne se leva. Victor reprit la parole.
« Encore une fois, je m'excuse, madame. Mais il le fallait, pour la justice d'abord, et pour vous-même aussi.
Oui, pour vous-même.
Un jour, vous me remercierez. Vous verrez cela. »
Sans un mot, toujours invisible dans ses voiles, courbée sous la honte, elle sortit. Gustave Jérôme fut emmené. Victor, lui, n'avait rien perdu de son sérieux. Cependant, il dit, d'un petit ton apitoyé, où il y avait malgré tout de la raillerie,
« Pauvre dame, ce qui m'a mis sur la voie, c'est la façon dont elle parlait du retour de son mari, cette nuit-là. Elle en gardait un souvenir ému. Je me suis endormi dans ses bras, disait-elle, comme si c'était un événement rare. Or, le soir même, Dautré me disait qu'il n'avait jamais eu que de l'affection pour sa femme. Contradiction flagrante, n'est-ce pas ? Et tout à coup, quand je l'eus constaté,
Je me suis souvenu de cette histoire de clé qui était cause de tant de conflits entre le ménage d'Autré et le ménage Jérôme. Ces deux idées se choquant l'une à l'autre, ce fut suffisant. L'étincelle jaillit en mon esprit. Jérôme, le propriétaire, l'ancien habitant de l'appartement, la possédait, cette clé. Dès lors, la suite des événements se déduisait d'elle-même, comme je vous l'ai exposé.
« De sorte que le crime ?»
demanda M. Valideau. « Le crime fut commis par d'autrui, seul.
Mais cette dame du cinéma, celle que l'on a rencontrée dans l'escalier d'Élise Masson,
elle connaissait Élise Masson. Et c'est par elle qu'elle a appris que le baron d'Autré était sur la piste des bons de la Défense, et que ces bons se trouvaient chez le père Lescaut, et que le baron devait tenter de les reprendre. Elle y alla, elle aussi.
Pour les voler ?
Non. D'après mes renseignements, ce n'est pas une voleuse, mais une névrosée, avide de sensations. Mais elle se rendit là-bas pour voir. Par curiosité, tomba juste à l'instant du crime et n'eut que le temps de s'enfuir vers l'auto qu'elle conduisait.
C'est-à-dire vers Lupin ?
Non. Si Lupin avait persisté à s'occuper des bons de la Défense, après son échec à Strasbourg, l'affaire eût été mieux conduite. Non, non. Il ne s'intéressait déjà plus qu'à son affaire des 10 millions. Et sa maîtresse a dû agir seule. En dehors de lui. D'Autré, qui ne la vit peut-être même pas, se sauva de son côté, n'osa pas revenir chez lui, vagabonda toute la nuit sur les grandes routes, et au petit matin, échoua chez Élise Masson. Un peu plus tard, je faisais ma première visite chez la baronne, et c'est la méprise dont elle avait été victime à son insu qui lui permit de défendre son mari avec tant d'élan, et de me dire avec tant de conviction sincère qu'il ne l'avait pas quittée de toute la nuit.
Mais cette méprise, d'autres l'ignoraient.
Évidemment. Mais l'après-midi, il sut que sa femme le défendait, contre toute vraisemblance.
Comment le sut-il ?
Voici. Mon entretien avec sa femme avait été écouté à travers la porte, par la vieille bonne. Se rendant au marché, cette vieille bonne fut repérée par un journaliste à l'affût et lui raconta la scène. Le journaliste fit un article et le porta à une petite feuille du soir, où il passa à peu près inaperçu. Mais à 4 heures, près de la gare du Nord, d'Autré acheta cette feuille et apprit, avec stupeur évidemment, que sa femme lui fournissait un alibi irréfutable. Il renonça donc à son départ, mit son butin à l'abri et entama la lutte.
Seulement,
eh bien, quand il se rendit compte exactement de la valeur de cet alibi et qu'il eut découvert peu à peu les raisons pour lesquelles sa femme était si convaincue, alors, sans rien lui dire, il la roua de coups. Nous savons maintenant que c'est en faveur de Gustave Jérôme que joue l'alibi dont profitait le baron d'Autré. Quand nous saurons en quoi Jérôme fut complice d'un crime auquel il n'a pas assisté, le problème de la bicoque sera résolu. Nous allons être renseignés.
Comment ?
Par Henriette Jérôme, sa femme.
Elle est convoquée.
Veuillez faire entrer aussi Félix Deval, monsieur le juge. On introduisit d'abord Henriette Jérôme, Félix Deval ensuite. Celle-là semblait très lasse. Le juge d'instruction la pria de s'asseoir. Elle balbutia des remerciements. Victor, qui s'était approché d'elle, se baissa et parut ramasser quelque chose. C'était une menue épingle à cheveux, une épingle neige ondulée, couleur de cuivre. Il l'examina. Henriette la saisit machinalement et la mit dans ses cheveux.
« C'est bien à vous, madame ?»«
Eh oui.
Vous en êtes tout à fait sûr ?
Tout à fait.
C'est que, voilà, je ne l'ai pas trouvé ici, mais parmi plusieurs autres épingles et babioles laissées au fond d'une petite coupe de cristal, dans la chambre que Félix Deval occupait à l'hôtel Cambridge et où vous veniez le retrouver. Vous êtes la maîtresse de Félix Deval. C'était une méthode chère à Victor. L'attaque absolument imprévue, effectuée par des moyens contre lesquels il semble tout d'abord qu'il n'y a pas de défense possible. La jeune femme fut suffoquée. Elle essaya bien de résister, mais il lui asséna un autre coup qui acheva de l'étourdir.
« Ne niez pas, madame. J'ai 20 preuves de cette nature, » affirma Victor, qui n'en avait aucune.
Hors de combat, ne sachant pas comment riposter ni à quoi se raccrocher, elle observa Félix Deval. Il se taisait, très pâle. Lui aussi, la violence de l'assaut le déconcertait.
« Dans toute affaire, il y a autant de hasard que de logique. Et c'est pur hasard si Félix Deval et Madame Jérôme choisirent comme lieu de leur rendez-vous l'hôtel Cambridge, qui était justement le quartier général d'Arsène Lupin. Pur hasard. Simple coïncidence. »
Félix Deval s'avança, en gesticulant avec indignation.
Ah, je n'admets pas, monsieur l'inspecteur, que vous vous permettiez d'accuser une femme pour qui mon respect...
Allons, pas de blague. J'énumère simplement quelques faits
qu'il sera facile de vérifier et auxquels vous pourrez opposer vos objections. Si monsieur le juge d'instruction, par exemple, acquiert la certitude que vous êtes l'amant de madame Jérôme, il se demandera si vous n'avez pas voulu profiter des événements pour rendre suspect le mari de votre maîtresse, et si vous n'avez pas concouru à son arrestation. Il se demandera si ce n'est pas vous qui avez conseillé par téléphone au commissaire Moléon de chercher dans le secrétaire de Gustave Jérôme. Si ce n'est pas vous qui avez poussé votre maîtresse à retirer les 2 balles de revolver. Si le jardinier Alfred n'a pas été placé par vous, comme on me l'a dit, chez votre ami Jérôme. Et si vous ne l'avez pas payé pour se rétracter et pour faire une fausse déposition contre son maître.
Mais vous êtes fou! Quel motif m'aurait conduit à de pareils actes?
Vous êtes ruiné, monsieur. Votre maîtresse est riche. Un divorce s'obtient aisément contre un mari compromis. Je ne dis pas que vous auriez gagné la partie. Mais je dis que vous vous êtes lancé tête basse dans l'aventure, comme un homme perdu et qui joue son va-tout. Quant aux preuves...
Victor se tourna vers M. Valideau.
Monsieur le juge d'instruction, le rôle de la police judiciaire est d'apporter à la justice des éléments d'une information rigoureuse. Les preuves vous seront faciles à trouver. Je ne doute pas qu'elles n'appuient mes conclusions. Culpabilité de Dautré, innocence de Gustave Jérôme, tentative de la part de Félix Deval pour induire en erreur la justice. Je n'ai plus rien à dire. Quant à l'assassinat d'Élise Masson, nous en causerons plus tard.
Il se tut. Ses paroles avaient produit une grande impression. Félix Deval prenait des airs de défi. Si Moléon hochait la tête, le magistrat et M. Gauthier subissaient la force d'une argumentation qui s'adaptait si bien à toutes les exigences de la réalité. Victor tendit son paquet de cigarettes Caporal au juge d'instruction et à M. Gauthier, qui acceptèrent distraitement, fit jouer son briquet, alluma et sortit, laissant les autres à leur besogne. Dans le couloir, il fut rattrapé par M. Gauthier, qui lui serra la main vivement.
« Vous avez été épatant, Victor !»«
Je l'aurais été bien plus, chef, si ce sacré Moléon ne m'avait pas coupé l'herbe sous le pied. »«
Et comment cela ?»«
Dame,
en survenant dans l'hôtel Cambridge au moment où je tenais toute la bande.
Vous étiez donc dans l'hôtel ?
Parbleu, chef. J'étais même dans la chambre.
Avec l'anglais Beamish ?
Mon Dieu, oui.
Mais il n'y avait que le Péruvien, Marco Savisto.
Le Péruvien, c'était moi.
Qu'est-ce que vous dites ?
La vérité, chef.
Pas possible.
Mais si, chef. Marco Savisto et Victor, c'est kiff-kiff.
Et Victor serra la main de M. Gauthier en ajoutant
« À bientôt, chef. Dans 5 ou 6 jours, je réparerai la gaffe de Moléon et Lupin sera pris au piège. Mais n'en soufflez pas mot. Sans quoi, une fois de plus, tout s'écroulera.
Cependant, vous admettrez... »
« J'admets que j'y vais quelquefois un peu fort. Mais c'est votre avantage, chef. Laissez-moi mes coudées franches. »
Victor déjeuna dans une taverne. Il était ravi. Délivré de toute méditation et indécision relative au crime de la Bicoque, au ménage d'Autré, au ménage Jérôme, à Félix Deval, ayant chargé la police de s'occuper de tous ces gens, comme il l'avait fait pour Audi Grand et pour la dactylographe Ernestine et pour la dame Chassin, il se sentait soulagé.
Enfin, il pouvait se consacrer à sa tâche. Plus d'équivoques, plus de fausses manœuvres provoquées par des tiers, plus de Moléon, plus de Larmona, plus de gens de qui il dépendait. Lupin et Alexandra. Alexandra et Lupin. Cela seul importait.
Il fit 2 ou 3 courses, redevint le Péruvien Marco Savisto, et à 3h05, il entrait dans le square de la Tour Saint-Jacques. Pas un instant, depuis le lendemain de l'échauffourée de l'hôtel Cambridge, Victor n'avait douté. La princesse Basileïev viendrait au rendez-vous qu'il lui avait jeté à la dernière minute, pour le cas où il ne se retrouverait point. Il n'admettait pas qu'après le rôle tenu par lui en cette circonstance, qu'après le choc violent qui les avait lancés l'un contre l'autre, puis réunis dans un même danger, elle se décida à ne jamais le revoir. Il lui était apparu sous un tel jour, il lui avait laissé un tel souvenir d'homme adroit, énergique, utile, dévoué, qu'une fois encore, elle serait attirée vers lui. Il attendit. Des enfants jouaient avec le sable. De vieilles dames tricotaient ou somnolaient à l'ombre des arbres ou de la tour. Sur un banc, un monsieur lisait derrière son journal déployé. Il s'écoula 10 minutes, et puis 15, et puis 20. À 3h30, Victor se tourmenta. En vérité, n'allait-elle pas venir ? Le fil qui la rattachait à lui, se résoudrait-elle à le briser ? Avait-elle quitté Paris, la France ? En ce cas, comment la retrouver et comment arriver jusqu'à Lupin ? Inquiétude passagère, et qui finit par un sourire de satisfaction qu'il dissimula en tournant la tête d'un autre côté. En face de lui, ses 2 jambes que l'on apercevait au-dessous du journal déployé, n'était-ce pas ? Il attendit encore 5 minutes, se leva et se dirigea lentement vers la sortie. Une main se posa sur son épaule. L'homme au journal l'abordait, très aimable, et cet homme lui dit
« Monsieur Marco Savisto, n'est-ce pas ?»«
Lui-même. »«
Arsène Lupin, sans doute. »«
Oui, Arsène Lupin,
sous le nom d'Antoine Bressac. Permettez-moi aussi de me présenter comme un ami de la princesse Basileïev. »
Victor l'avait reconnu sur le champ. C'était bien l'homme qu'il avait aperçu un soir à l'hôtel Cambridge, avec l'anglais Beamish. Ce qui le frappa tout de suite, c'est la dureté, mais aussi la franchise des yeux gris foncé, couleur d'ardoise. Cette dureté, un sourire affable l'a corrigée,
et plus encore le désir manifeste de plaire. Une allure très jeune, un buste large, un air de grande force et de souplesse sportive, beaucoup d'énergie dans la mâchoire et dans l'ossature du visage. 40 ans, peut-être. Une excellente coupe de vêtements.
« Je vous ai aperçu au Cambridge.
« Vous avez aussi la faculté de ne jamais oublier une personne rencontrée. En effet, je suis venu plusieurs fois dans le hall avant de me réfugier, comme blessé de guerre, dans la seconde chambre de Beamish. Votre blessure? Presque rien, mais douloureuse et gênante. Lorsque vous êtes venu avertir Beamish, ce dont je vous remercie vivement, j'étais à peu près d'aplomb.
Assez, en tout cas, pour lui envoyer un mauvais coup.
Oh, dame! Il me refusait le sauf-conduit que vous lui aviez signé, mais j'ai frappé plus fort que je ne voulais.
Il ne parlera pas?
Fichtre, non! Il compte trop sur moi pour l'avenir.
Ils suivaient tous deux la rue de Rivoli. L'auto de Bressac stationnait.
Pas de phrase entre nous. Nous sommes d'accord?
Sur quoi?
Sur l'intérêt que nous avons à être d'accord.
Entendu.
Votre adresse? Instable, depuis le Cambridge.
Aujourd'hui?
Nous y allons. Vous prenez votre bagage et je vous offre l'hospitalité.
C'est donc urgent.
Oh, urgent? Une grosse affaire en train. 10 millions.
La princesse?
Elle vous attend.
Ils montèrent. À l'hôtel des deux mondes, Victor reprit les valises qu'il avait déposées, prévoyant le sens des événements. Ils sortirent de Paris et gagnèrent Neuilly. Au bout de l'avenue du Roule, à l'angle d'une rue, il y avait entre cour et jardin une maison particulière, à 2 étages.
Simple pied-à-terre. J'en ai comme cela 10 dizaines à Paris. Juste de quoi se loger, un personnel restreint. Vous coucherez dans mon studio, près de ma chambre, au 2nd étage. La princesse occupe le 1er.
Le studio, dont la fenêtre ouvrait sur la rue, était confortable, meublé d'excellents fauteuils, d'un divan-lit et d'une bibliothèque choisie.
Quelques philosophes, des livres de mémoire, et toutes les aventures d'Arsène Lupin, pour vous endormir.
Je les connais par cœur.
Moi aussi. Et à propos, vous voudriez peut-être bien la clé de la maison.
Pourquoi faire?
Si vous avez à sortir.
Leurs yeux se rencontrèrent 1 seconde.
Je ne sortirai pas. Entre 2 expéditions, j'aime bien me recueillir. Surtout si je ne sais de quoi il s'agit.
Ce soir, voulez-vous? Après le dîner, lequel est servi dans le boudoir de la princesse, pour plus de commodité et aussi par prudence. Le rez-de-chaussée de mes logements est toujours un peu truqué et réservé aux descentes de police et aux batailles éventuelles.
Victor défit ses valises, fuma des cigarettes et s'habilla, après avoir, à l'aide d'un petit fer électrique, repassé soigneusement le pantalon de son smoking. À 8 heures, Antoine Bressac vint le chercher. La princesse Basileïev l'accueillit avec beaucoup de bonne grâce, le remercia avec effusion de ce qu'il avait fait pour elle et ses amis au Cambridge, mais aussitôt sembla se retirer en elle-même. À peine prit-elle part à la conversation. Elle écoutait, distraitement d'ailleurs. Victor, qui parla peu, raconta 2 ou 3 expéditions dont il avait été le héros et où, comme de juste, son mérite n'avait pas été médiocre. Quant à Antoine Bressac, il montra beaucoup de verve. Il avait de l'esprit, de la gaieté et une manière de se faire valoir où il y avait autant d'ironie que de vanité amusante. Le dîner fini, Alexandra servit le café et les liqueurs, offrit des cigares et s'étendit sur un divan, d'où elle ne bougea plus. Victor s'installa dans un vaste fauteuil capitonné. Il était content. Tout se déroulait selon ses prévisions, dans l'ordre même des événements qu'il avait préparés. D'abord complice d'Alexandra, s'infiltrant peu à peu dans la bande, affirmant ses qualités, donnant des preuves d'adresse et de dévouement, voilà qu'il allait devenir le confident et le complice d'Arsène Lupin. Il était dans la place. On avait besoin de lui. On sollicitait sa collaboration. Fatalement, l'entreprise s'achèverait conformément à sa volonté.
« Je le tiens. Je le tiens. Seulement, il n'y a pas une faute à commettre. Un sourire de trop, une intonation maladroite, une réflexion par à côté, et avec un gaillard comme celui-là, tout est perdu.
Nous y sommes ?
J'y suis.
Ah, une question au préalable. Est-ce que vous devinez à peu près où je veux vous mener ?
À peu près.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que nous tournons le dos résolument au passé. Les bons de la défense nationale, le crime de la bicoque, tout cela et tous les rebâchages des journaux, fantaisie de la justice et du public, c'est fini. N'en parlons plus.
Un instant. Et le crime de la rue de Vaugirard ?
Fini également.
Ce n'est pas l'avis de la justice.
C'est le mien. J'ai mon idée là-dessus. Plus tard, je vous la dirai. Pour le moment, un seul souci, un seul but.
Lequel ?
L'affaire des 10 millions, à laquelle vous faisiez allusion dans la lettre écrite par vous à la princesse Bassiliev.
À la bonne heure. Rien ne vous échappe à vous, et vous êtes dans le train.
Et s'asseyant à califourchon sur une chaise, face à Victor, il s'expliqua.